Bonjour à toutes et à tous, Pascal Sim pour ce journal d'ONU Info. Au menu de ce journal, l'ONU condamne l'attaque commise dans le nord du Burkina Faso. L'experte des droits de l'homme Agnès Kalama réagit aux condamnations prononcées en Arabie Saoudite à la suite du meurtre de Jamal Khashoggi. Et en dossier, rencontre avec Boulou Bari, experte des Nations Unies pour le droit à l'éducation. Le secrétaire général des Nations Unies a fermement condamné l'attaque perpétrée le 24 décembre dans le nord du Burkina Faso, à Arbinda, dans la province de Soum. Des individus armés non identifiés ont mené une des attaques les plus meurtrières qu'ait connue ce pays du Sahel. Plus de précisions avec Florence Westergaard.
Dans une déclaration attribuable à son porte-parole Stéphane Dujarric, Antonio Guterres a exprimé ses profondes condoléances aux familles des victimes de l'attaque perpétrée dans le nord du Burkina Faso. Le secrétaire général a également souhaité un prompt rétablissement aux blessés. Selon les informations rapportées par la presse, des groupes armés terroristes ont mené le matin du 24 décembre une double attaque visant à la fois les forces burkinabées et la population civile à Arbinda, au nord du Burkina Faso, près de la frontière malienne. L'attaque, d'une rare intensité, a duré plusieurs heures. Un appui aérien aurait permis de repousser les assaillants. Au total, 35 civils, dont 31 femmes, auraient perdu la vie. 7 militaires auraient été blessés et au moins 80 assaillants abattu. Antonio Guterres a transmis la solidarité des Nations Unies au peuple burkinabé et réitéré le soutien de l'ONU au gouvernement du Burkina Faso et aux autres pays du Sahel dans leurs efforts contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Depuis 2015, ce pays d'Afrique de l'Ouest est en proie à des attaques djihadistes récurrentes comme ses voisins, le Mali et le Niger.
La rapporteure spéciale des Nations Unies sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires réagit aux condamnations à mort prononcées lundi en Arabie Saoudite contre 5 personnes pour le meurtre du journaliste saoudien Jamal Khashoggi. Pour Agnès Kalamar, ces condamnations à mort constituent un double choc. Christina Silvero nous en dit plus.
Pour Agnès Kalamar, le procès saoudien portant sur le meurtre de Jamal Khashoggi à Istanbul en octobre 2018 est tout sauf justice. Dans un communiqué publié ce jeudi, la rapporteure spéciale sur les exécutions extrajudiciaires exprime une série de critiques. Parmi elles, l'experte qui s'oppose à la peine de mort déplore que les 5 bourreaux impliqués dans le meurtre aient été condamnés à mort sans que les conditions précises qui pourraient justifier la peine capitale ne soient réunies. De plus, ceux qui ont ordonné les exécutions sont non seulement en liberté, mais ils ont à peine été touchés par l'enquête et le procès. Selon Madame Kalamar, la présence d'un médecin légiste inscrit dans l'équipe officielle du meurtre au moins 24 heures avant le crime, discutant du démembrement de M. Khashoggi 2 heures avant qu'il ne se produise réellement, indique clairement que le crime était planifié. Madame Kalamar soutient que le meurtre de M. Khashoggi est une exécution extrajudiciaire et que l'État doit pour autant être tenu responsable. Une enquête sur la chaîne de commandement pour identifier les commanditaires ainsi que ceux qui ont incité, permis ou fermé les yeux sur le meurtre, comme le prince héritier, doit être diligentée.
Koumbou Bolibari est rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l'éducation. Ancienne ministre de l'Éducation du Burkina Faso, l'experte est venue il y a quelques mois à New York pour présenter son rapport annuel devant l'Assemblée générale des Nations Unies. Au micro de Jérôme Bernard, Koumbou Bolibari explique en quoi l'éducation peut jouer un rôle dans la prévention des conflits, mais aussi comment, dans certaines circonstances, l'école peut diviser au lieu de rassembler. S'agissant du financement de l'éducation, l'experte plaide pour une plus grande décentralisation de la gestion des ressources financières.
L'éducation, pour moi, c'est un instrument puissant, dans le sens où c'est un système qui permet plutôt d'anticiper et de prévenir. Et ce rôle d'anticipation, il est essentiel parce que, au lieu d'attendre que les conflits éclatent et on cherche à remédier, autant prévenir. Et l'éducation, c'est ce puissant instrument-là dans ce processus de prévention des conflits. Parce que si on intègre les valeurs fondamentales, essentielles, de solidarité, d'acceptation, de diversité culturelle, mais aussi d'une culture de gestion des conflits, je suis sûre et certaine que quelque part, même en démarrant à la petite enfance, en allant au primaire, au secondaire, mais aussi à la formation professionnelle, mais aussi à l'université, parce que pour moi, il faut que ce soit vraiment de façon holistique qu'on tienne compte de cette dimension, capacité de prévention de l'éducation dans le système éducatif pour aider justement les sociétés à prévenir les atrocités, prévenir les conflits. Un enfant à bas âge, on me demande souvent, mais à quel moment il faut démarrer? J'ai dit, il faut démarrer très tôt. juste dans une salle de classe, un enfant qui a 3 ans, qui bouscule son petit copain ou sa petite camarade par mégarde, le minimum, c'est sa capacité déjà à lui dire « excuse-moi, pardon ». Rien que ça déjà. Et l'autre va récupérer peut-être le cadavre et puis elle lui remettre, elle va dire « merci ». Vous voyez, c'est déjà cette capacité à être en paix avec soi-même, à développer cette confiance, mais surtout à développer aussi une sorte d'empathie vis-à-vis des autres. Et ça commence déjà très tôt.
Vous l'avez mentionné dans votre récent rapport, il y a des circonstances dans lesquelles les écoles peuvent diviser au lieu de rassembler. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples ?
Quand on dit l'école peut à la fois diviser, c'est la façon dont, quand on est en situation par exemple de conflit, on est en situation de guerre, on utilise l'éducation comme un instrument de propagande où on utilise l'éducation plus pour diviser les gens en disant aux autres de toute façon, prenez par exemple les guerres interethniques ou au cas où on décide que des minorités, on veut les brimer. On utilise l'éducation à la fois dans les manuels, vous allez retrouver que ces gens-là, ils ne font pas partie de l'histoire, leur histoire est complètement reléguée au deuxième plan ou n'existe même pas dans les manuels scolaires ou tout simplement quand ça existe, c'est pour dire ce sont des gens qu'on a conquis à telle époque. Ça ne fait que renforcer le pouvoir de domination d'un groupe sur un autre. Et ça, c'est pas fonctionnel. Souvent même, toutes les questions, par exemple, qui sont liées aussi aux femmes ou aux filles, vous prenez un manuel scolaire dans lequel vous ne voyez que des images stéréotypées de femmes qui sont à la cuisine, qui sont en train d'aller chercher de l'eau, qui sont en train de servir le mari. Ce sont aussi des images de stéréotypes qui font que quelque part, on considère qu'un tel groupe vacille son rôle et son statut dans la société. C'est-à-dire l'éducation, souvent, est le reflet aussi de ce qui existe dans la société. Et il faut que l'éducation soit plutôt une sorte d'avant-gardiste.
Estimez-vous que l'éducation bénéficie du financement qu'elle mérite ?
À la fois, on peut dire que l'éducation a suffisamment de ressources pour pouvoir être organisée de la meilleure des façons. On peut aussi dire qu'il n'y en a pas suffisamment. Je dis aussi, est-ce que on s'est donné le moyen de regarder ce qui existe déjà dans les pays et comment on peut mieux gérer ce que nous avons dans chaque pays. Moi, je vous donne juste un petit exemple. J'ai été ministre de l'Éducation chez moi. On prend juste le budget pour les fournitures. Exemple, les tables bancs. Il faut donner un marché au niveau central. Les gens fabriquent des tables bancs et il faut récupérer ces tables bancs et il faut les amener à 500 ou à 600 km. Donc ça veut dire qu'il faut encore louer un véhicule qui doit transporter ces tables bancs et aller les redispatcher dans des écoles. En oubliant tout simplement qu'il y a des petits artisans qui existent dans ces petites localités et qu'il fallait juste remettre cet argent à ces petits artisans qui sont pas loin de ces écoles, qui pourraient confectionner ces tables bancs et qui pourraient aller directement les déposer dans les écoles. Vous voyez ce que ça donne en termes de gains ? Mieux, les cantines scolaires. Les cantines scolaires, on fait aussi une sorte d'appel au niveau central. On récupère les vivres et on les redistribue encore en louant des camions qui vont encore aller jusqu'au niveau village, qui vont redistribuer le mil, le riz et tout ça. Ça avait été d'ailleurs collecté au niveau de ces paysans producteurs. Vous voyez ce que ça fait ? Par contre, si au niveau de chaque école, on leur remettait les ressources qu'il faut pour la cantine scolaire et on demandait à chaque école de s'organiser avec les parents d'élèves qui sont bien sûr ces paysans producteurs à la fois de riz, de mil, de maïs, mais aussi qui sont des producteurs de lait, fournissez à l'école du lait, du mil, du riz. Non seulement ils vont donner du bon mil, du bon riz, parce que ce sont leurs enfants qui vont nourrir, mais mieux, vous développez l'économie locale autour de l'école. Mais vous faites une sorte de lien entre l'école et la société, entre l'école et le système productif de la localité. Et ça, c'est aussi cette ouverture-là qu'il faut à l'école. Pour moi, c'est aussi des questions de décentralisation du système éducatif. Je l'ai fait au Burkina. Quand je suis arrivée, les ressources étaient gérées 80% au niveau central. Quand je quittais le ministère, 80% des ressources financières étaient gérées au niveau des écoles et au niveau des régions et des provinces. C'est un choix politique et il faut absolument que de plus en plus les ressources financières qui existent soient déjà mises à disposition des écoles, des centres d'alphabétisation, des espaces de petite enfance, des universités et des centres, bien sûr, de formation professionnelle. Et je vous assure, on parlera moins de carences ou de déficits aussi de financement de ce système.
Fin de ce journal de Nuit Info à retrouver sur notre page internet et sur nos comptes Twitter, Facebook et SoundCloud. Merci de votre fidélité et à très bientôt.